n'est pas des Einstein.
On n'est pas des Einstein.
Et bonjour dans cette nouvelle émission, deuxième épisode vraiment grandiose de vous retrouver un mois après la première émission. C'était le mois dernier, hein, si je mets quelques sons bons, je suis très bon en maths. Je suis vraiment très bon, je connais le calendrier par cœur, c'est bien. Je peux passer au CP maintenant. Alors deuxième émission, deuxième épisode, aujourd'hui on se retrouve pour les news scientifiques, les news de l'espace, les news technologiques et les news biologie et sciences de la Terre. On va commencer par Louise, qui va nous présenter donc les news de l'espace. Qu'as-tu à nous dire, Louise ?
Oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux vous parler mission, la mission DART. DART, vous en avez peut-être entendu parler dans les nouvelles, c'est la mission qui a impacté un astéroïde le 26 septembre 2022. Donc DART, c'est une mission de la NASA et c'est la première mission de ce qu'on appelle Planetary Defense. C'est en réalité une mission qu'on imagine pour les cas où on aurait observé qu'un astéroïde se dirigerait vers la Terre et qu'il faudrait donc la rediriger, digne des plus grands films d'Hollywood.
Armageddon, quoi.
Exactement, Armageddon. Eh bien, DART a eu lieu pour de vrai. C'était un impacteur de 570 kilos, donc à peu près presque une vache de salaire, qui a impacté l'astéroïde Dimorphos. Et le résultat de cette mission, c'est que l'astéroïde a changé effectivement son orbite. Au lieu de faire le tour de Dimos, l'astéroïde, en 11h55, elle le fait maintenant en 11h23, donc 32 minutes plus rapidement.
Et
moi, je vous conseille de taper sur Google DART Mission. Vous verrez, Google a fait un easter egg en l'honneur de cette mission spatiale.
Hâte de voir ça. Mais du coup, la mission a fonctionné, c'est mission accomplished, vraiment.
Mission accomplished, absolument.
Bravo DART.
Et elle a été observée par un CubeSat, le Licia Cube, envoyé par l'agence spatiale italienne. Et je sais qu'on va parler CubeSat un peu plus tard.
On parlera CubeSat tout à l'heure.
Cet impacteur, 570 kilos, ça paraît pas beaucoup quand même pour dévier un astéroïde.
Donc c'est absolument.
570, absolument. Hein, c'est ça?
570, c'est à peu près une vache de salaire.
En fait,
c'est dans l'espace, il suffit d'une toute petite pichenette, du moment qu'elle a été faite très tôt dans une trajectoire, pour que ça crée des kilomètres et des kilomètres de déviation plus tard. Donc,
et ouais, parce que dans l'espace, une simple pichenette, un petit peu, il suffit d'apporter une force autre pour te faire dévier l'objet en question qui, lui, est sur sa trajectoire. Mais c'est fou, quand même.
Il faudra quand même les voir tôt, les astéroïdes, alors.
Ah oui.
Exactement. Et c'est le gros problème, c'est qu'on a du mal à voir les astéroïdes petits, enfin, les petits astéroïdes qui pourraient donc arriver un peu au dernier moment. Mais bon, les gros, on les a plutôt repérés.
Yes, nickel. Donc, tout va bien. Pour l'instant, tout va bien.
Ouais, c'est ça.
Il me semble, Didier, que toi, tu voulais nous parler d'un truc de dingue que j'ai trouvé vraiment énormissime, une nouvelle façon de repenser les villes, et donc une sorte de ville du futur en Arabie Saoudite, c'est ça ?
C'est ça, c'est la ville du futur, c'est un nouvel concept de ville qui a été mis au point en Arabie Saoudite, c'est un projet du prince d'Arabie Saoudite, ça s'appelle The Line. Et cette ville, attendez, elle serait composée d'immeubles, en fait, qui feraient 200 mètres de large, 400 mètres de long et 500 mètres de haut. Au lieu de construire les immeubles autour d'un centre-ville, en fait, on les construit en ligne, les uns à la suite des autres. Et la ligne, au total, ferait en fait 170 km de long.
Oh la vache, un truc de dingue.
Dans cette ville du futur, donc, qui serait en forme de ligne, on pourrait loger à peu près 1 million d'habitants. Elle serait invisible, quasiment invisible, car la surface des immeubles, en fait, serait composée de façades en miroir. Donc, si vous regardez la ville, en fait, vous verrez que le reflet du paysage. Donc elle se fondra totalement dans son environnement.
Ah, d'accord.
On ne la verra plus. Elle sera neutre en carbone. Elle sera aussi autonome en eau. C'est-à-dire qu'on va aller puiser l'eau directement, en fait, dans la mer avec toutes les technologies de
dessalage.
De dessalage.
Ah, ouais.
Totalement autonome, en fait.
Ouais, donc, d'accord.
Pas besoin
100%
de.
Autonome. Une ligne de 170 km, 1 million d'habitants. Autonome, quoi.
Totalement autonome.
Ouf.
Est-ce qu'on sait quand est-ce que c'est le futur?
ça va démarrer dans pas longtemps, en 2029. Et je crois qu'ils ont prévu 50 ans pour la construire.
50 ans à partir de 2029.
Donc ça sera la ville du 22e siècle, quoi.
D'accord, ouais. Dingue. Et surtout, alors, ils vont attaquer ça juste après les JO d'hiver, quoi.
C'est ça, ouais, c'est vrai, oui. Les Jeux Olympiques d'hiver d'Arabie Saoudite, oui, c'est ça.
2029, ouais, les Jeux d'hiver seront Arabie Saoudite, c'est...
Ouais, c'est
magnifique. Bon, c'était The Line, bravo. Franchement, énorme. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite page publicité pour ma chaîne YouTube, Explorascience, où on parle science de la vie et de la Terre, mais aussi de toutes les sciences, et je parle justement de The Line dans une de mes vidéos, donc n'hésitez pas à regarder sur YouTube Explorascience. Voilà, c'est dit. Eh bien, merci Didier. Merci.
Bah, de rien.
Bon, moi, j'ai une petite news, là, une actu assez, on va dire, électrifiante, électrique, puisque bah, c'est le cas de le dire, je vais parler de la fourmi électrique. Et la fourmi électrique, en fait, c'est une fourmi qui vient d'Amérique du Sud, qui a été trouvée dans le sud de la France, dans le Var, à côté de Toulon. Eh bien, on n'avait encore jamais observé cette fourmi-là en France, et c'est avéré, elle est présente, et en plus, elle est envahissante. Donc, c'est-à-dire que c'est une fourmi qui peut piquer. Elle est électrique, c'est-à-dire que c'est pas vraiment de l'électricité, mais elle fait une sensation de choc électrique tout petit, comme de l'ortie, mais en beaucoup plus puissant, quoi. Qui peut, en plus, tenir pendant 2 à 3 heures. Donc, en gros, vous avez de l'ortie sur la peau pendant 2-3 heures. Ça vous fait une bonne petite décharge électrique bien sympa. Et le problème, c'est qu'elle se reproduit très vite et beaucoup. Elle peut faire des super colonies gigantesques et elle se reproduit assez vite de manière normale, d'accord, une reproduction normale. Mais en plus, elle peut se reproduire en se clonant. Et donc, elle peut se reproduire très vite. Donc, à suivre.
Et est-ce que, par exemple, si elle rencontre des fourmis européennes, est-ce qu'il va y avoir les...
C'est la guerre.
Ça va être la guerre, mais la guerre.
Ah oui,
c'est qu'il y a des chances, c'est 50-50.
Ah, je pense qu'elle défonce tout le monde.
Elle
fait que 1,5 mm, mais elle vient pas d'ici. Elle est hyper agressive. Et elle a une arme, du coup, beaucoup plus forte que celle qu'on a ici.
Est-ce qu'on peut la brancher au réseau électrique pour nos problèmes énergétiques?
Eh bien, on va donner l'idée à EDF. Hein. Peut-être que pour cet été... Pour cet été, cet hiver, qu'est-ce que je raconte?
Oui, la pénurie, c'est un hiver. Oui.
Ouais, voilà. Bon, en cas de pénurie, allez, hop, petite super colonie de fourmis électriques. On va faire des câbles avec et puis on va faire des trucs. Voilà. Eh bien, moi, je vous propose qu'on passe désormais à notre dossier. Dossier de l'épisode 2. Aujourd'hui, on va parler de ce qui s'appelle des CubeSats. Alors, à savoir, apparemment, on pourrait jouer avec des cubes et ces cubes seraient des satellites. En gros, c'est ça, hein, Louise. Hein, si on veut imaginer le truc, c'est jouer au cube, tout simplement.
Oui, il faut imaginer un cube de 10 cm par 10 cm par 10 cm. Donc, ça tient facilement dans une main. Et ça, c'est ce qu'on appelle le standard CubeSat. Donc, c'est un standard qui a été inventé à Caltech pour faciliter l'accès à l'espace en fait aux étudiants. Donc l'idée c'était de dire envoyer des choses dans l'espace ça coûte très cher souvent parce que c'est des grosses machines. Là pour que des étudiants des universités américaines puissent très rapidement comprendre la complexité de ces satellites, eh bien il y a des professeurs qui ont inventé ce format 10 par 10 par 10 et qui en fait prend la place dans les trous dans les lanceurs, c'est-à-dire que effectivement on a des gros satellites qui partent mais comme un Tetris il reste de la place et on peut la remplir avec ces cubes ça.
Voilà. Donc pour resituer...
Et pourquoi 10 cm?
Ben justement, c'est pour resituer un petit peu. Bon, en gros, un CubeSat, c'est un satellite petit, c'est un nano-satellite. Et comme vient de le dire Louise, justement, ben, il a été nécessaire d'inventer quelque chose de petit pour que toutes les universités puissent envoyer, à la rigueur, leur satellite d'études, ou alors qu'on puisse envoyer des petits satellites à moindre coût, plus facilement, et donc donner accessible à des petites entreprises ou des startups ou des étudiants la possibilité d'envoyer quelque chose dans l'espace.
Non.
En gros, c'est ça, non?
Absolument.
Ouais, ma question, c'est comment ils se sont mis d'accord pour trouver ce 10 cm?
C'est une standardisation, du coup. Alors, Louise, du coup, t'as
oui,
peut-être...
alors pourquoi est-ce qu'ils ont choisi 10 plutôt que 5 je ne le saurais dire. À mon avis, c'était par rapport aux composants qu'on avait à l'époque et qu'ils ont dû se dire, dans un CubeSat, il faut en général une radio, il faut un petit ordinateur de bord, quelle va être la bonne taille de base, et 10 cm, semble être raisonnable.
Ouais, c'est le minimum pour avoir tout ce qu'il faut pour faire un satellite, quoi.
Ouais, et puis ça fait 1 litre, quoi.
En réalité, Il y a ce qu'on appelle les chipsats et les picosats, qui sont encore plus petits que les nanosatellites, qui tiennent presque sur des formats de cartes bancaires. Mais, vraiment, la science est extrêmement limitée sur ces choses-là.
Ouais,
tandis qu'avec les CubeSats, alors je vais préciser un petit peu, mais les CubeSats, on peut en mettre plusieurs ensemble. Donc on a ce qu'on appelle une unité, qui est ce cube de 10 par 10 par 10. On a 3 unités si on les empile, on a des 6 unités. Et après, au-delà de 6, on commence à devenir un peu dans des CubeSats de taille plus, des satellites de taille moyenne.
Donc si on regarde un satellite beaucoup plus gros, style RadarSat 2, qui est un satellite d'observation géographique, il me semble que c'est ça, il fait plus d'une tonne. Donc c'est un gros rhinocéros, si tu veux.
D'accord.
Voilà.
Et donc, c'est des gros satellites, et quand on les monte sur les fusées, en fait, il reste de la place, et on met les petits satellites dedans.
On peut faire
exactement.
Voilà, exactement. On peut faire ça en ce qui s'appelle donc une charge utile secondaire.
Ah, d'accord, c'est l'autostop de l'espace, quoi.
Ouais, en gros, c'est ça.
Et alors, et voilà, et en fait, l'autostop de l'espace, c'est vraiment le bon terme, parce que comme je vous disais dans la mission précédente, là, la mission qui allait sur un astéroïde, donc là, l'autostop, ça a été jusqu'à l'astéroïde. Il y avait ce petit CubeSat qui s'appelle Lycia Cube, qui était fait par l'Agence spatiale européenne, qui était attaché à l'impacteur, et avant impact, c'est détaché, et en fait, la mission de ce CubeSat, c'était de filmer l'impact. Donc, on avait un peu une petite caméra.
Une petite caméra embarquée qui s'est détachée.
Ah, d'accord, ouais.
Exactement.
Getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fainting smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Help me to carry the stone. Open your heart, I'm coming home. Donc ouais, en fait, ça permet de limiter le coût parce qu'on envoie plusieurs satellites en même temps. Dans les CubeSat, on peut en avoir jusqu'à 24 unités en même temps, attachées les unes sur les autres pour faire un satellite, entre guillemets. Mais après, quand on les envoie en tant que charge utile secondaire, c'est-à-dire bah, quelque chose qui... Ce qu'on appelle la charge utile, c'est la charge qui est possédée par la fusée. C'est tous les satellites qu'elle contient, en gros. Toutes les,
ah d'accord, ouais, c'est le chargement, quoi.
C'est le chargement. En gros, c'est le chargement. Et après... tu peux avoir une charge utile secondaire, entre guillemets, c'est-à-dire, bah, cette mission-là, elle doit envoyer ça, mais il nous reste de la place, allez-y, grimpez dedans, quoi.
Ouais, mais on peut envoyer.
Du coup, ça coûte moins cher.
C'est pas, les CubeSat envoyés sont pas liés avec la fonction du satellite principal?
Pas forcément.
Pas toujours.
Ah non, pas toujours.
Pas toujours.
Hein. Et oui, parce que du coup, tu peux avoir des CubeSat qui vont prendre des mesures météorologiques, offrir des observations géographiques, ouais. D'autres qui vont, je sais pas moi, prendre des mesures de gaz dans l'espace, j'invente.
Ah d'accord, ouais,
il peut y avoir plein d'applications. Hein.
Il y a des CubeSats qui font des démonstrations technologiques pas chères, en fait. Par exemple, il y a une entreprise qui développe un tout petit moteur. Plutôt que d'envoyer ce petit moteur sur un gros satellite au risque de qu'il ne marche pas et que ça compromette la mission principale, on l'envoie sur un petit CubeSat. Et en fait, d'une certaine manière, c'est moins grave si ça ne marche pas. C'est des missions qui valent en général entre 500 000 et 2 millions d'euros. À l'échelle de l'espace, c'est vraiment pas cher. Évidemment, à notre échelle à nous, c'est quand même quelque chose, mais à l'échelle du spatial, c'est 10 000 euros le kilo pour envoyer sur la Station Spatiale Internationale. Ouais. Une mission comme ça, ça permet de tester des technologies très rapidement.
À moindre coût. Et oui, parce que ça coûte aussi cher d'envoyer quelque chose en l'air, parce que quand on envoie quelque chose hors de la Terre, il faut de l'énergie. Il faut de l'énergie parce que bah, la Terre, il y a de la pesanteur, etc. Il y aura des frottements quand tu pars en l'air et puis que tu vas à une certaine vitesse. Bon, du coup, il faut beaucoup d'énergie et bah, l'énergie, ça coûte cher.
D'accord. Donc là, là, du coup, en fait, ça permet aux gens d'envoyer à moindre coût. Dans l'espace, ça permet aussi peut-être aussi ceux qui lancent les gros satellites de réduire un peu les coûts, peut-être aussi, non?
Ah ben totalement, ouais.
Ça marche, c'est de la collaboration, quoi.
Exactement, ouais, ouais, ouais. Du coup, là, on réduit les coûts des deux côtés, parce qu'on a réduit aussi le poids, ouais. Et puis on met en commun et on fait de la collaboration et on repose totalement la façon de faire du spatial, quoi. Le spatial est beaucoup plus atteignable.
Ouais, c'est accessible, quoi. Ça devient accessible pour.
Voilà. Ça devient plus accessible
pour des scientifiques, quoi.
Voilà, c'est ça.
En fait, cette mentalité, elle est très très présente dans le spatial. Donc là, on a vu, en fait, l'idée c'était de faire du partage de fusée. Donc on partage la place qu'il y a dans une fusée pour maximiser le nombre de expériences scientifiques qu'on peut faire. Mais aujourd'hui, il y a même des partages de satellites, c'est-à-dire que c'est des satellites qu'on envoie un peu comme des grosses boîtes et sur ces satellites, il y a peut-être encore un peu de place disponible et il y a des compagnies qui proposent en fait de partager un bout du satellite directement. Donc là où avant c'était deux entités différentes, maintenant, ça devient un peu comme un crocodile et son oiseau qui l'accompagne, quoi. C'est des symbioses qui commencent à s'effectuer.
Mmh. Ouais, c'est d'accord. Tout le monde y trouve son compte, quoi. On a encore de la place si vous voulez venir.
Non, ça. Ouais, c'est ça. Et puis on peut du coup avoir plusieurs collaborations, comme on disait tout à l'heure, entre scientifiques, entre les partages de, je sais pas, de matériel ou. Ou de
et partage partage de tâches, absolument, parce tâches, que ouais. parce que dans un CubeSat, si on fait un CubeSat traditionnel, il faut développer les moyens de télécommunication, les moyens énergétiques, donc les panneaux solaires et tout. Alors que dans ces satellites partagés, en fait, il y a qu'une seule personne qui se charge de ces moyens globaux, donc de communication et d'énergie, et ensuite tout le monde partage les ressources. C'est un peu comme une copropriété à l'échelle du spatial.
D'accord. Quand on veut lancer comme ça un CubeSat, on prend la première fusée qui vient ou
En fait, c'est devenu un réel business. Maintenant, il y a même des brokers, donc des gens qui sont en charge de trouver les lancements qui ont encore de la place. Il y a des entreprises qui se sont créées autour du concept du marché de la place dans les fusées. Donc, en fait, il faut se rapprocher de ces personnes qui ensuite vont dire, eh bien là, il y a de la place dans 3 mois, dans 1 an, dans 2 ans. En fonction des besoins et des lancements existants.
Ouais. Uber sans faire de publicité, mais
exactement.
C'est le Uber de
BlaBlaCar de l'espace.
BlaBlaCar de l'espace.
Exactement.
Enfin, c'est bien pensé et puis ça permet de rendre vraiment accessible la science du spatial au final et puis l'étude du spatial, envoyer quelque chose dans l'espace.
Ouais, c'est. Ouais. Ça va démocratiser un peu
complètement.
L'accès à l'espace, quoi.
Ouais. Ouais.
Ça aide beaucoup, mais il faut quand même se rendre compte des réalités. Ça prend quand même toujours 1 an et demi de développement à peu près pour envoyer un tel objet dans l'espace. Donc, à l'échelle des universités, c'est parfois difficile parce que les étudiants changent d'année, sur place. Et donc, il y a encore beaucoup de place pour la standardisation. Et il y a beaucoup d'entreprises qui se développent autour qui proposent des services tout compris, en fait, qui disent, bon, bah, vous, à l'université, peut-être que vous êtes intéressé que par la partie, j'en sais rien moi, propulsion.
Ouais.
Vous n'avez pas besoin de voir toute la télécom et les panneaux solaires, on s'en charge. Donc, il y a tout un écosystème qui existe autour de ça maintenant.
Et ouais. Bah, ils ont raison. Hein. ils ont chopé le truc. Ouais. Hein. Et ouais, donc et puis même maintenant sur Internet, tu peux si tu veux construire ton satellite toi, t'as sans faire de pub à nouveau, mais t'as l'Amazon du satellite quoi. T'achètes des morceaux de satellite t'achètes ce que tu veux.
CubeSat dans kit quoi.
Des kits, des morceaux de CubeSat,
d'accord. Des pièces de Lego, exactement.
Ouais, c'est ça, des pièces de Lego quoi.
Sauf que chaque pièce coûte 1 500 euros, mais c'est des pièces de Lego quand même.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais.
Alors, il y a quand même il y a des tests normalement dans les satellites. On sait pas de faire un Lego et de le mettre dans une fusée.
C'est à toi de le tester après, de voir, de comparer. Après, il y a des choses qui ont déjà été utilisées pour d'autres missions, pour d'autres trucs. On sait comment ça marche et ce qu'ils valent, quoi.
Tout satellite, quel qu'il soit, que ce soit un CubeSat ou pas, est obligé de passer tout un tas de tests, effectivement, des tests en vibration, des tests thermiques, parce que comme on fait du Uber de l'espace, en fait, les fusées n'accepteraient pas que le CubeSat puisse mettre en danger les autres missions qui sont à bord. Et donc même les CubeSats sont obligés de prouver qu'ils sont capables de résister aux vibrations du lancement et autres contraintes
de l'espace et du décollage et tout ça.
Exactement.
Et ouais.
Ouais, j'imagine qu'on peut pas mettre des explosifs dans un CubeSat.
Bah c'est le risque. Je me posais la question. Quel est le risque par rapport à ça? Vu que c'est accessible à tout le monde, est-ce qu'il y a pas justement un risque que y ait des mauvaises intentions?
Et oui.
Voilà, c'est ça aussi. Okay. Donc.
La charge, la responsabilité, elle incombe quand même aux lanceurs qui acceptent d'accueillir un CubeSat. Et donc eux demandent tout un tas de preuves avant d'accepter finalement que le CubeSat rentre dans la fusée. Donc il y a quand même, c'est ça qui fait que ça allonge un petit peu les temps pour envoyer dans l'espace. Mais sur les explosifs, fun fact, il y en a pas mal dans l'espace en fait. On s'en fait peut-être pas compte, mais à chaque fois qu'il y a des déploiements, c'est souvent des charges explosives, des tout petites, hein, mais qui permettent de faire les déploiements.
Et oui, parce qu'il faut une petite impulsion, paf, pour que le CubeSat puisse sortir de son logement ou de son, de là où il se trouve, en fait, pour qu'il soit envoyé.
Alors, pour les CubeSats, je crois que c'est des ressorts, il me semble, mais il y a d'autres missions avec des panneaux solaires qui s'ouvrent et ce genre de choses, ou c'est...
Des petites impulsions, quoi, comme des petits pétards, quoi.
Des tout petits pétards,
des
exactement.
Des petits claques d'oie, tu sais, les trucs des gamins, là, que t'avais.
Ah oui, les claques d'oie, là.
Ouais. Bah, c'est ça, presque, hein, c'est similaire, si vous voulez, pour avoir une idée dans votre tête. C'est ça.
Voilà.
Et donc, un CubeSat, ça vole à basse altitude, en fait.
Pas forcément. Toutes les orbites qui sont accessibles par des satellites classiques peuvent être accessibles par des...
Bah ouais, ça dépend du satellite que tu... Enfin, j'imagine du lancement que tu empruntes, non?
Voilà.
Le CubeSat, il doit aller là où va le satellite, finalement.
Donc, la majeure partie des CubeSats vont là où les autres satellites primaires vont. Donc, ce qu'on appelle low Earth orbit, l'orbite basse.
L'orbite basse, ouais.
Voilà. À peu près là où se trouve la station spatiale internationale.
400 km, du coup, pour vous.
Mais il y a des CubeSats, qui sont allés juste sur Mars, par exemple, autour de Mars.
Ah oui, c'est vrai. Ouais. J'ai entendu ça, ouais. Et alors, pour donner une idée aux auditeurs, en gros, 400 km de hauteur, à 10 km, c'est à peu près là où sont les avions. Les ballons stratosphériques, donc de météo, c'est à peu près 50 km. Et les météorites, donc les étoiles filantes, etc., c'est une centaine de kilomètres, à peu près.
Je crois que la frontière officielle, c'est 100 km. Au-dessus, c'est l'espace, en dessous, après, c'est l'atmosphère.
Exactement.
C'est ça, ouais.
C'est une frontière qui est symbolique parce que l'atmosphère ne s'arrête pas d'un coup immédiatement.
Non, oui.
C'est transitoire comme effectivement 100 km, c'est la limite officielle de l'espace.
Alors, pour la petite anecdote, le premier CubeSat donc, a été lancé le 30 juin 2003 et donc par une fusée russe qui s'appelait Rokot. Voilà, je trouvais ça ce nom rigolo, Rokot. Voilà, donc je trouvais le nom rigolo. Je voulais le citer. Voilà. Maintenant, on pourrait l'envoyer même avec peut-être des micro-lanceurs. Moi, je me posais la question, est-ce qu'on peut pas justement réduire la taille des lanceurs pour créer des lanceurs plus petits, du coup?
Eh bien, il y a tout un tas de business qui croient en ça. Et donc, il y a plein de fusées qui sont en train d'être développées dans le monde des micro-lanceurs, qu'on appelle effectivement des micro-lanceurs. Il y en a en Nouvelle-Zélande, en Australie, il y en a en France aussi qui sont en train d'être développés. Et c'est donc un marché dans lequel les investisseurs croient et investissent. Il y a encore toute la course est lancée. Il n'y a pas d'acteur principal qui en soit sorti particulièrement.
Il y a pas encore, il y a un business qui s'ouvre, mais il n'y a pas encore de monopole vraiment à proprement dit.
Il y a des noms qui commencent à sortir du lot et on verra, je pense, d'ici une dizaine d'années à peu près, on saura exactement qui aura gagné cette course.
Moi, j'ai vu une entreprise qui faisait des lanceurs, une centrifugeuse.
Ah,
c'est-à-dire qu'ils mettaient, en fait, c'est une grosse centrifugeuse dehors, verticale.
Ouais.
Ils montent en fait leur fusée comme une fronde, quoi.
Mmh.
Et ça tourne extrêmement rapidement et ils arrivent quasiment. Ça arrive juste assez en dehors de l'atmosphère.
Ouais.
Et après, une fois qu'il n'y a plus vraiment d'atmosphère, ça saute et puis ça décolle.
J'ai vu ça. C'est des sortes de gros.
C'est des grosses centrifugeuses.
Ouais, c'est ça.
Et en fait, ton satellite, il est d'un côté.
Ouais.
Et puis ça tourne jusqu'à je sais pas combien de tours minutes. Assez pour envoyer dans l'espace.
Ils utilisent la force centrifuge pour envoyer.
Du coup, après, il déclenche le lancement. Et pile poil au moment en face de la fenêtre.
Mmh.
Et là, t'as comme un missile qui part.
Qui part d'un coup.
Mais sans fusée, quoi. La fusée se déclenche une fois que le truc il est arrivé vraiment en dehors de l'atmosphère, quoi.
Ouais, du coup, économie de carburant, économie de
pâte. C'est ça, ouais.
Ouais, c'est fou. Après, faut le faire tourner, le truc, du coup.
Après, je sais pas, on n'a pas vu vraiment avec quoi il faut tourner la centrifugeuse, mais. Ouais.
Mais ça doit utiliser moins d'énergie, en tout cas, et un coût moins élevé, je pense que.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et eux, c'est vraiment, tu vois, genre le tour de la Terre, et puis c'est tout, quoi.
Ah, j'ai vu ces lanceurs, ils sont assez dingues. Je pense que je ferai peut-être une vidéo là-dessus, sur les réseaux. Je refais une petite pub au passage pour Explora Science, donc la page YouTube et TikTok aussi, du coup, d'Explora Science. Et c'est ma page en particulier.
Allez voir, il y a plein de choses à apprendre.
Il y a plein de trucs à apprendre, voilà.
Eh bien, on arrive à la fin de cette émission. Nous voici tristes, bien tristes de devoir vous lâcher.
Ça passe quand même super vite.
Ça passe super vite. En tout cas, on a été super contents de vous retrouver pour cet épisode 2 et on va faire un épisode par mois. Ça va être une année de dingue. Ça va être fou. La première saison, on est fou. On est juste excités comme des puces, hein, tous.
On est à fond.
On est à fond, là. On est à fond. Mais voilà, bon, cette fois-ci, occasionnellement, on a retrouvé Louise par téléphone, hein, qui est actuellement un petit peu loin de nous. Mais c'est pas très grave. En tout cas, on a pu communiquer et puis on a pu parler des CubeSat, qui est l'avenir du satellite, l'avenir de l'espace, entre guillemets, et on en reparlera très certainement plusieurs fois. Voilà, bah, je vous dis au revoir à tous.
Au revoir à tout le monde.
Au revoir à tous.
Et puis à très bientôt. Allez, gros bisous, des poutous. Ciao, ciao.
Salut, ciao, ciao.
Allez, bisous.
Bonne journée.
Ciao.
Bisous.
In which energy is spread equal to mass. Furthermore, the equation E is equal to mc squared, in which energy is spread equal to mass.
Une émission radiophonique, scientifique, podcastique et radioactive.
On n'est pas du tout des Einstein.
Oui, tout est relatif.